Vous écoutez France Culture.
Du grain à moudre jusqu'à 19h, vous pouvez dès maintenant laisser vos commentaires à la page de l'émission, c'est sur franceculture.fr. Bonsoir à tous. Publié en 2006, puis réédité en 2007 et 2012, Les paradis fiscaux de Christian Chavagneux, l'un des trois invités du Grain à Moudre ce soir, a encore de beaux jours devant lui. D'ailleurs, l'auteur lui-même ne s'y trompe pas. Écrire un livre sur les paradis fiscaux présente au moins un avantage, on est toujours dans l'actualité, s'exclame-t-il en ouverture de cet ouvrage. Cet hiver encore, les faits lui donnent raison. Fraudeurs repentis, régularisez-vous. L'administration fiscale attend que vous vous signaliez. Début décembre, Bercy affirme avoir déjà reçu plus de 8500 demandes de régularisation en 3 mois. Une goutte d'eau, là où les estimations avancent un chiffre de 80 000 comptes de Français non déclarés, rien que pour la Suisse. Des comptes bien protégés, à en croire les spécialistes, par de savants montages financiers ou des sociétés écrans. Mais un an après l'affaire Cahuzac, 6 mois après la publication de la circulaire Cazeneuve, moins de 2 mois après le vote d'une loi sur le sujet, l'atmosphère de lutte contre la fraude fiscale aura au moins permis ça, une volonté affichée de transparence. La France, offensive contre les paradis fiscaux et l'argent caché, oui, concède un groupe européen d'ONG. La France donne de la voix, mais pour de maigres résultats selon le rapport d'Eurodad publié le 16 décembre dernier. Car la mise en œuvre des mesures annoncées reste un problème de taille. Manque de moyens, manque de soutien, la France sent bien à la peine de révolutionner le système. Alors pourquoi ? L'évasion fiscale peut-elle vraiment se régler au niveau national ? Du grain à moudre ouvre ce soir le débat. Et du grain à moudre ouvre ce débat en compagnie de 3 experts, 3 spécialistes de la question. Christian Chavagneux, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il se vend bien ce livre ?
Très très bien.
Oui, vous avez bien fait de l'écrire.
Au bon moment.
Rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative Économique et co-auteur de Les paradis fiscaux, donc paru à la Découverte ou réédité en 2012. À vos côtés, Grégoire Niaudet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de plaidoyer sur les questions financières à l'ONG Secours Catholique Caritas France. Et vous faites un travail, vous, de sensibilisation, hein, beaucoup sur ces questions de chiffrage et de sensibilisation.
De sensibilisation et de proposition et d'interpellation des décideurs publics pour que vraiment mettre fin à ce scandale de l'évasion fiscale.
Mais c'est vrai que ça ne nous tilte pas tout de suite à l'esprit de se dire que le Secours catholique travaille sur ces dossiers-là. On pense tout de suite à des grandes associations comme Anticor, des associations de lutte contre la corruption ou contre la fraude fiscale. Quelle est la particularité ? Pourquoi le Secours catholique s'est intéressé à ces questions-là ?
Le Secours catholique, comme d'autres organisations comme le CCF des Terres Solidaires ou Oxfam France, est parti sur ce sujet par rapport aux enjeux des pays en développement, des pays pauvres, qui se trouvent être les premières victimes de ce phénomène et dont on voyait bien que si on voulait atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, il fallait mobiliser les ressources locales et donc mettre fin au scandale de l'évasion fiscale pour qu'ils puissent bénéficier de leurs ressources.
Enfin, à vos côtés, messieurs, Vincent Piollet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Des déclarations d'intention, des réglementations. Depuis 5 ans, la lutte contre l'évasion fiscale serait devenue le cheval de bataille des gouvernements et des instances internationales. Et pourtant, dans son livre « La richesse cachée des nations, enquête sur les paradis fiscaux », le petit dernier ouvrage sur le sujet qui vient de sortir, le jeune économiste Gabriel Zucman fait un constat assez simple. En 2013, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux et l'opacité financière ne cesse de progresser. Une industrie de l'évasion fiscale qui prospère, c'était aussi ce qu'a montré l'enquête Offshore Leaks. Alors à ce jeu du chat et de la souris, Christian Chavagneux, c'est-à-dire que les voleurs seront toujours plus malins que les gendarmes, que les professionnels de la fraude seront toujours plus rapides, plus inventifs que les services fiscaux.
Jusqu'à présent, on considérait que les paradis fiscaux, c'était un peu un crime sans victime. Hein. Quelques riches, quelques bétancourts allaient se cacher, puis une ou deux multinationales. Non. Ce qu'on a gagné aujourd'hui, c'est qu'on a bien compris que l'évasion fiscale s'est, entre guillemets, démocratisée. C'est-à-dire qu'on a compris que des cadres avec des hauts revenus, que des patrons de PME qui partaient à la retraite, qu'il n'y avait pas seulement les très gros riches qui utilisaient les paradis fiscaux, mais beaucoup de personnes à revenus plutôt aisés. Et que du côté des entreprises, ça avait tellement proliféré qu'aujourd'hui, d'après certaines certaines estimations, on perd entre 60 et 80 milliards de recettes fiscales. Ça fait pratiquement 20% des recettes fiscales par an. Quand on voit qu'à chaque débat budgétaire, on se bat pour 1 ou 2 milliards, il y a vraiment beaucoup à gagner là. Enfin, la police s'y met. Et ça, c'est la bonne nouvelle de 2013.
Alors, tant que la finance mondiale, justement, se portait bien et rapportait gros, il n'y avait pas vraiment urgence à régler ce problème, hein, qui était perçu comme un simple travers du système. Aujourd'hui, vous l'évoquez, en temps de crise, et alors que les dettes publiques s'alourdissent, la fraude fiscale passe pour un fléau, qui plus est un fléau permanent de nos sociétés, pour reprendre les mots de l'experte en criminalité financière Marie-Christine Dupuis-Danon. Aberration économique, la fraude fiscale, les paradis fiscaux, menace pour la démocratie, Grégoire Niaudet.
Ben oui, puisque ça permet à certains de se soustraire aux règles communes qui devraient s'appliquer à chacun. Maintenant, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, c'est le problème principalement des utilisateurs. Les paradis fiscaux ne sont qu'un outil pour des grandes entreprises, des grandes fortunes, et puis d'autres, comme dit Christian, puisque ça a tendance à se démocratiser. Mais ça reste un outil fabriqué par des grandes puissances financières pour se soustraire à l'impôt et déclarer de la valeur dans des territoires peu fiscalisés, là où elle n'est pas produite. Et donc, il est important de remettre déjà, de savoir ce qui se passe là-bas pour pouvoir ensuite lutter efficacement là-dessus.
Alors, quels sont, Vincent Piollet, vous le spécialiste en géopolitique, les intérêts qui s'affrontent ici? Qui fait de la résistance? Est-ce que c'est simplement quelques particuliers ou des professionnels de la fraude? Ou est-ce qu'il y a aussi des États qui n'ont pas vraiment envie que le système change?
Eh bien, en fait, quand on regarde un petit peu une carte des paradis fiscaux, on se rend compte que chaque grande puissance a un petit peu son précaré, ses propres paradis fiscaux. Et en ce qui nous concerne pour la France, par exemple, on a à nos portes, par exemple, on a encore Monaco ou Andorre, qui sont des paradis fiscaux notoires. Et on se pose la question, d'ailleurs, était-il vraiment nécessaire que François Hollande aille faire une visite officielle à Monaco pour vous rappeler donc un territoire qui abrite à peu près 6000 nationaux. C'est même pas le nombre d'habitants d'une HLM comme la Castellane à Marseille. C'est un territoire minuscule, hein, qui fait à peu près un dixième de Disneyland, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Et François Hollande va faire une visite officielle dans ce territoire, alors que, a priori, il n'y a aucun effort qui n'est consenti. Des accords sont signés, mais dans les faits, si vous voulez, on peut y revenir.
Et si on ne parle pas avec ceux qui mériteraient de faire des efforts, alors ça n'avancera jamais. Que François Hollande devienne un peu l'ambassadeur de ces questions-là, c'est plutôt bon signe.
En fait, la difficulté, c'est qu'on a trop discuté sur ces sujets. Le général de Gaulle avait discuté à ces sujets-là. Il n'a pas trouvé un accord. Il a fait un embargo. Pendant un an, ça a été difficile. Les monégasques ont après lâché du lest, et notamment les résidents français ont été imposés. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas nous fâcher donc avec ces 6000 personnes. Ça ne représente même pas la population d'une ville de banlieue parisienne, d'ailleurs. Quel est l'enjeu? Alors moi, personnellement, il y a deux solutions, ou c'est l'incompétence ou la complicité. A priori, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'études, donc je ne pense pas que ça soit de l'incompétence. C'est juste qu'il y a des enjeux, on ne veut pas ouvrir certainement la boîte de Pandore, et surtout Monaco est notre paradis fiscal, et nous sert, et la France, et les sociétés françaises, et nous sert de trou noir, et on en a bien besoin à des raisons économiques.
Christian Chavagneux.
Non, Monaco, c'est 20 milliards d'argent qui passe. Donc, on a des diplomates, on a des gens à Bercy, pour ceux qui sont engagés dans la lutte contre les paradis fiscaux. On a de petits moyens pour lutter contre une industrie qui est devenue mondiale, qui correspond aujourd'hui à une infrastructure de la mondialisation financière. C'est pas juste un ou deux petits territoires comme ça. Donc, si on n'a pas envie de s'attaquer aux 20 milliards d'euros qui passent à Monaco, mais aux centaines, aux milliers de milliards qui passent dans les gros paradis fiscaux, il vaut mieux mettre nos forces sur ces gros territoires. Et c'est ça vraiment que le G20 essaye de faire, avec la France. Je crois que, de ce point de vue, la France contribue très bien à, d'une part, remettre en cause les pratiques fiscales douteuses des riches par l'échange automatique d'informations. C'est-à-dire que dès qu'un Français va s'installer à l'étranger, le fisc français va avoir l'information. Ça, c'est pour les riches. Et de l'autre côté, pour les multinationales, un plan en 15 points qui a été soutenu par la France, dont 8 points sont destinés directement à remettre en cause les pratiques fiscales douteuses des multinationales. Ça va plutôt dans le bon sens. Dans les deux cas, le G20 s'est donné 2 ans pour mettre ça en place. Donc, pour l'instant, c'est des paroles, ils se sont engagés pour les 2 prochaines années. Il faudra revenir dans 2 ans pour dire, voilà, est-ce que l'échange automatique est en place? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est un périmètre large d'échange d'informations? Est-ce qu'on a vraiment mis en place les mesures qu'on disait qu'on allait mettre en place pour remettre en cause les pratiques fiscales douteuses des multinationales?
Grégoire Niodet, Vincent Piollet, c'est quand même important cette question de la volonté politique. La France se montre assez offensive depuis un an. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique maintenant de lutter contre les paradis fiscaux à son échelle, à sa mesure? Ou est-ce qu'il faut parler de politique du trône vide, pour reprendre votre expression, Vincent Piollet, dans un article que vous avez écrit à ce sujet-là, qui fait que la France profiterait et deviendrait un peu, malgré elle, un leader européen dans la lutte contre les paradis fiscaux, parce qu'elle a peu de concurrents en la matière, entre guillemets?
Personnellement, c'est comme disait Monsieur Chavagneux, effectivement, il y a des gros territoires, on peut s'attaquer directement à des gros flux et à des gros morceaux. Mais déjà, je pense que si on faisait juste le ménage juste à nos pieds, c'est-à-dire comme Andorre ou Monaco, c'est-à-dire régler leur sort, mais de façon définitive et très rapidement, et sans gêner les Chinois ou les Russes ou qui que ce soit, sans embêter personne, en fait, c'est vraiment un problème national. C'est comme le sujet de l'émission le souligne. Au niveau national, nous, déjà, on peut agir à ce niveau-là sur ces deux territoires.
Après, Andorre et Monaco ne sont pas des départements ou des régions françaises.
Non, mais elles sont, disons qu'elles sont sur nos zones d'influence et elles sont sous notre contrôle. Et notamment, Andorre, le président de la République est coprince d'Andorre, donc a sa responsabilité. Il a dit qu'il jouerait sa responsabilité dans les règles de contrôle bancaire en Andorre. Bon, après, on attend, on verra bien ce que ça donne.
Ça, pour vous, ce serait un vrai signal. Et pour vous, Grégoire Niodet?
On a vu quelques signaux quand même de la part de la France de s'attaquer à ce fléau-là. La loi sur la fraude qui est passée cette année a développé tout un arsenal de mesures. Certaines ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, c'est un peu dommage, mais et même certaines mesures, là, aujourd'hui, il y a eu un avis de la Cour du Conseil constitutionnel sur la loi de finances qui retoquait aussi des mesures sur la déclaration des schémas d'optimisation fiscale préalablement par les entreprises, et c'est aussi assez dommage. On a vu beaucoup d'activités, surtout, alors, on ne peut pas mettre en doute non plus la volonté du gouvernement. Il y a certaines choses qui ont été faites, mais les grandes avancées sont venues des parlementaires qui, avec beaucoup de courage parfois, ont tenu tête à Bercy, notamment dans le cadre de la loi bancaire qui est passée année aussi, au mois de juin définitivement, qui ont voté ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire l'obligation pour les banques de déclarer un certain nombre d'informations de leur activité partout où elles sont présentes. Et ça, ce sont les députés qui ont... Alors, il y a eu une espèce d'alliance avec nos organisations pour faire passer cette mesure, puisque c'était une mesure sur laquelle on militait depuis des années au niveau national et au niveau international. Et cette mesure est passée finalement avec l'aval de Bercy, mais au départ, Bercy était très, très, très réticent à le faire passer. Ça aussi appuyer la démarche européenne similaire, c'est-à-dire qu'obliger les grandes banques européennes à déclarer ce qu'elles font partout où elles sont présentes. Il y a eu un accord au niveau européen aussi pour une mesure de ce type. Donc la France peut montrer l'exemple sur ces choses-là, elle l'a fait. Maintenant, il faut aller encore plus loin sur l'échange automatique d'informations, sur la transparence des sociétés opaques, des trusts, sur un certain nombre de choses. Autre point aussi, puisque tout à l'heure on parlait de démocratie, d'enjeux démocratiques, c'est que la plupart des mesures internationales qui se discutent actuellement se font au sein du G20, au sein de l'OCDE. Ce sont des clubs de pays riches et les pays en développement qui sont les les victimes les plus touchées par ce phénomène, touchées par rapport à leur richesse, par rapport à, leur, à la, la richesse de leur population, sont complètement exclues du jeu de négociation. Et on est en train, le risque qu'on a, c'est que tout ce qui se discute actuellement se fasse par et pour les entreprises des pays du Nord, au détriment des pays du Sud qui seront, qui subiront encore ces méfaits à l'avenir.
Qui se retrouvent passifs en fait dans cette, dans cette configuration.
Qui se retrouvent au mieux sur un strapontin dans des négociations un peu consultées, etc., par des, le Forum fiscal mondial, mais qui ne sont pas partie prenante des décisions et qui sont traités comme des grands enfants par, les gouvernements du Nord qui disent on veut bien faire la transparence, mais entre nous, on ne va pas mettre des pays dont on ne sait pas ce, dans la boucle, dont on ne sait pas ce qu'elles feront de l'information.
Alors qu'elles auraient beaucoup à y gagner. Alors juste, Christian Chavagneux, pour refaire un point avec vous, quels sont aujourd'hui les outils de lutte actuellement existants, et notamment qu'est-ce que cette fameuse loi française relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est venue apporter au dispositif, en quoi l'a-t-elle renforcée? On sait donc que le Conseil constitutionnel a aussi retoqué un certain nombre de dispositions, elle en a censuré certaines. Est-ce que c'était les plus importantes, les plus emblématiques ou pas forcément? Où en est-on au niveau franco-français pour l'instant?
On va avoir beaucoup plus de moyens d'enquête pour, à disposition à la fois de Bercy et des douanes pour essayer de cibler les gens qui font acte de fraude fiscale. Normalement, le juge n'a pas le droit de s'auto-saisir, puisque c'est Bercy uniquement qui peut saisir la justice en cas de dossier de fraude ou d'évasion fiscale avérée. La justice a réussi à tourner autour en déclarant un problème de blanchiment de fraude fiscale. Lorsqu'il y a un problème de blanchiment d'argent, alors la justice peut s'auto-saisir. Et donc avec ça, on va pouvoir avoir des moyens supplémentaires. Il y avait deux ou trois dispositions très importantes dans cette loi que malheureusement le Conseil constitutionnel a retoqué ce week-end. Notamment, il y avait l'obligation qui était faite à tous ces fiscalistes, à ces cabinets d'audit, de comptabilité qui offrent ces produits d'évasion fiscale, de déclarer les montages comme ça se fait au Royaume-Uni, au fisc. Comme ça, le fisc pouvait regarder de manière extrêmement précise ce qui se faisait et puis dire, tiens, là, j'ai des doutes, je mets des moyens pour enquêter. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a retoqué cette mesure au nom de la liberté d'entreprendre. Au nom de la liberté d'entreprendre. Nous devons avoir le droit de proposer des produits d'évasion fiscale, sinon ça va contre la liberté d'entreprendre. On marche un peu sur la tête. Il y a aussi l'obligation et les contraintes qui étaient faites aux entreprises de divulguer leur prix de transfert, leur politique de prix de transfert. Les prix de transfert, c'est les prix auxquels les mêmes filiales d'une multinationale s'échangent des biens et des services. C'est par là que passe une bonne partie de l'optimisation fiscale agressive des multinationales. Malheureusement, ça a été aussi retoqué. Et puis le dernier point qui était aussi extrêmement important et qui était apporté, je tiens à souligner ce qu'a dit Grégoire, par les parlementaires, les paradis fiscaux, la finance, c'est un sujet très technique. Moi, j'étais extrêmement surpris, très positivement surpris. Il y a une dizaine de parlementaires français qui ont plongé les mains dans le cambouis de la technique, de la politique, qui ont réussi à trouver des compromis pour lutter contre les paradis fiscaux. Cette troisième mesure, elle était avancée par Yann Gallu, le député du Cher, qui consistait à dire, vous savez, quand il y a une loi qui vous permet de réduire vos impôts, hein, une niche fiscale, lorsque vous tirez un peu trop la loi pour aller trop loin, c'est un abus de droit. Et donc, on pouvait être condamné lorsque cet abus de droit utilisait des opérations pour motif exclusivement fiscal. Ce qu'avait introduit la loi, c'est de dire on pourra attaquer les entreprises si les motifs est principalement fiscal. Le MEDEF a hurlé. Pourquoi le MEDEF a hurlé? Parce que la différence subtile entre le exclusif et le principal, eh bien dans cette différence se glisse beaucoup de pratiques d'optimisation fiscale. Eh bien le Conseil constitutionnel a donné raison au MEDEF à retoquer cette avancée qui était importante. C'est bien dommage.
Alors au niveau européen, il y a deux nouvelles directives qui sont dans les tuyaux pour élargir l'échange automatique d'informations fiscales. L'arme principale que vous avez déjà citée au moins à deux reprises, Christian Chavagneux, une révision de la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne qui va permettre d'étendre là encore ces échanges d'informations aux versements, à des versements effectués via des fondations, hein, ou des trusts.
Des personnes civiles, morales.
Et puis une directive sur la coopération administrative, là encore, qui va étendre le champ de ces échanges. Mais tout changement requiert une unanimité des 28, et c'est toujours la complication, ça peut être parfois la complication ou la complexité de cette grande union politique. Et il y a deux États qui traînent des pieds. Alors vous allez peut-être pouvoir nous dire un peu pourquoi, Vincent Piollet, l'Autriche et le Luxembourg.
Oui, effectivement, par tradition, le Luxembourg et l'Autriche sont très attachés à leur secret bancaire et sont les premiers donc à essayer de le défendre. La difficulté, c'est que en fait, on est un peu dans une situation du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que le Luxembourg et l'Autriche ne feraient pas d'efforts tant que des États comme la Suisse ou Saint-Marin ou encore Monaco ou Andorre, etc., d'autres États ne feraient pas donc d'efforts de transparence.
Des pays hors Union européenne.
Voilà, des pays hors Union européenne. Mais comment demander à la Suisse des échanges automatiques d'informations alors que l'Europe est incapable de demander la même chose au Luxembourg ou à l'Autriche? Donc on est vraiment dans une problématique, oui, du serpent qui se mord la queue. Et donc on a des difficultés politiques où à un moment, il faut mettre le Luxembourg et l'Autriche face à ses responsabilités. Et jusqu'à quand est-ce qu'elle peut tenir? Ça fait maintenant une dizaine d'années que ces négociations-là n'ont pas abouti à cause de ces pays. Quels moyens a-t-on? Je ne les connais pas. Je pense qu'il n'y en a pas, malheureusement.
Non, c'est fait. On a avancé depuis cette étape qu'a bien décrit Vincent Piollet. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont imposé l'échange automatique d'informations au Luxembourg et à l'Autriche, et d'ailleurs à l'ensemble des pays de l'Union européenne qui ont bien voulu signer avec les États-Unis. Or,
ils l'ont imposé avec une convention bilatérale.
Avec une convention bilatérale. Or, dans la directive échange d'informations fiscales que vous avez citée, il y a trois petites lignes tout en bas, comme sur les médicaments, qui dit si vous donnez un quelconque avantage à un pays hors Union européenne, vous devez le donner de manière équivalente, au pays de l'Union européenne. Ce qui fait que l'Union est arrivée, le commissaire européen à la fiscalité est arrivé devant le Luxembourg et l'Autriche en disant « Attention, vous avez signé ce papier, cette directive, elle rentre en œuvre. De toute façon, le Luxembourg et l'Autriche mettront en œuvre un échange automatique d'informations à partir de 2015. » Ils ont même signé le 22 mai dernier. Si les mots ont un sens, le résultat du Conseil européen du 22 mai dernier, il y a marqué « Tout le monde va mettre en place l'échange automatique d'informations fiscales ». Le Luxembourg a signé, l'Autriche a signé. Donc c'est vrai, Vincent Piollet a raison de dire « Ils ne veulent le mettre concrètement en place que si la Suisse signe ce type d'accord ». Et là, la bonne nouvelle, ce qu'on a appris ce week-end, c'est que l'Union européenne rentre tout début janvier en négociation avec la Suisse pour avancer sur le dossier.
Alors, évasion fiscale, zoomons maintenant sur ce petit pays, le Luxembourg, dont on vient de parler. Petit pays de l'Union européenne que Gabriel Zucman, auteur donc de La richesse cachée des nations, enquête sur les paradis fiscaux qui vient de sortir, qualifie de gouffre ou encore d'État capturé par la finance, représentant 40% du PIB, le secteur de la finance, une finance opaque, écrit-il encore, qui s'est bâtie sur l'optimisation fiscale des multinationales et la fraude des particuliers. C'est donc le Luxembourg, tout de suite le contrepoint de Mélanie Chalandon. Est-ce qu'on a raison de pointer, cet état du doigt en permanence, comme étant franchement le mauvais élève?
Effectivement, s'il est facile de débattre de la responsabilité des financiers luxembourgeois dans l'évasion fiscale chez nous, et c'est ce que nous faisons ce soir, cela l'est beaucoup moins à l'intérieur du pays où il existe une sorte de consensus national sur l'utilité de la finance. Rares sont les voix donc qui osent ne serait-ce que questionner son bien fondé et ses impacts sur ses voisins européens. C'est en tout cas ce que nous décrit Jean-Sébastien Zipper. Il est coordonnateur d'Ethica, une association luxembourgeoise qui œuvre à mettre la finance au service de l'humain et qui fut l'une des rares à organiser un débat sur l'argent qui fâche.
Disons, la question de la finance en général est bien perçue. Par contre, les côtés fâcheux de la finance, donc pour parler clairement de l'évasion fiscale qui pourrait bénéficier au Luxembourg, eux, effectivement, sont beaucoup plus, ou en tout cas peu mis sur la place publique. Nous avions donc organisé en 2009 un débat public contradictoire entre des représentants des ONG et de la place financière. Mais on peut dire que c'était un peu l'exception. Et depuis, il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, on n'a pas dans la culture luxembourgeoise de culture du débat, de la contradiction. Donc c'est un peu dommage. Et d'un autre côté, il faut bien être conscient que beaucoup de personnes au Luxembourg, y compris celles qui ne travaillent pas dans le secteur bancaire, sont persuadées que l'unique richesse du Luxembourg dépend de la place financière et donc critiquer la place financière reviendrait à cracher dans la soupe. Il y a quand même un parti de gouvernement qui est Les Verts, qui a quand même des positions assez critiques. Il y a un autre parti qui est DLN, qui est l'équivalent du parti de gauche en France, qui lui est encore plus critique sur la place financière. Donc on ne peut pas dire qu'il y a le consensus. Mais cela dit, il faut le dire quand même que oui, de manière générale, tous les partis de gouvernement sont quand même extrêmement, peu critiques sur la question de l'évasion fiscale.
Des voix peu critiques donc, car pour beaucoup, c'est l'équilibre économique et social du pays qui pourrait être remis en cause s'il fallait vraiment faire place nette. Alors, en signant la convention multilatérale de l'OCDE sur la coopération fiscale en mai dernier, le Luxembourg s'est pourtant engagé à un échange automatique d'informations avec une soixantaine de pays. S'il est un peu tôt pour connaître les impacts de cet engagement, qui ne sera effectif qu'en 2015, une étude parue récemment estime que 2000 emplois pourraient être menacés. On écoute Raymond Klein, journaliste pour l'hebdomadaire luxembourgeois indépendant, la Vox.
Je pense que c'est pour le cas de figure qui est sérieusement envisagé pour 2015, où il y aura cet échange partiel, du moins échange partiel d'informations automatiques. Ça aura des conséquences sur les dépôts d'étrangers au Luxembourg. Alors, chiffrer ça exactement, c'est évidemment impossible. Mais ce chiffre, évidemment, il a influencé les décisions politiques lors de la constitution de notre nouveau gouvernement, qui a adopté un programme gouvernemental assez favorable à la place financière. Évidemment, on sait que sur certains points, le pays a déjà fait des concessions. Surtout à cause de la pression européenne, il devra encore en faire, mais sur d'autres points ou sur d'autres pratiques, on va essayer de prolonger ou même d'étendre les possibilités de la place financière.
Au Luxembourg, donc, la pression de l'Union européenne et tout particulièrement de l'Allemagne et de la France a permis de faire bouger un petit peu les lignes. C'est donc, question, que la pression internationale n'est pas tout à fait inutile.
Christian Chavagneux.
La pression internationale est tout à fait utile. On sait que si on appuie un peu fort sur la tête des Suisses, la Suisse est un pays de la neutralité. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'engager les grandes négociations diplomatiques. On l'a vu, on appuie un peu deux fois fort sur leur tête. Deux fois, ils ont craqué. Il faut continuer à appuyer sur la tête parce que quand on fait craquer la Suisse, on fait craquer le Luxembourg et l'Autriche.
En novembre dernier, l'OCDE a quand même jugé que le Grand-Duché, à égalité avec Chypre, était non conforme au regard des normes internationales en matière de transparence et d'échange d'informations fiscales. Grégoire Niaudet, mauvaise volonté, le Luxembourg, un paradis fiscal en Europe. Il y en a un, en tout cas, et c'est de nouveau Gabriel Zucman, hein, que je citais tout à l'heure, qui pose la question de son exclusion de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ?
Exclusion, en tout cas, entamer un rapport de force, ça c'est clair que c'est nécessaire. Maintenant, il faut aussi des opinions publiques qui continuent à se mobiliser. C'est aussi grâce à une mobilisation des opinions publiques, de la société civile, que des choses ont pu avancer. Il faut aussi, dans ce cadre de ce rapport de force, pouvoir aussi pointer du doigt des États européens. Pour l'instant, la France, par exemple, s'interdit de mettre sur ces listes de paradis fiscaux ou territoires non coopératifs en langage diplomatique des pays de l'Union européenne. Et ça, c'est aussi un frein aussi pour avancer. Alors, si on parle de la question des listes, on a actuellement le problème aussi, c'est qu'on ne fait qu'une seule liste dont dépend tout un arsenal de sanctions, quels que soient les délits. Et ce sera intéressant peut-être de faire des listes, des plusieurs listes, selon les infractions qu'on cherche à réprimer. Et puis aussi, pourquoi pas, des listes positives, parce que le Royaume-Uni, par exemple, a établi une liste pour demander l'information à des entreprises, pour que les services fiscaux demandent de l'information complémentaire à des entreprises, dans des territoires qui ne sont pas sur une liste positive. Et on s'est rendu compte, en regardant cette liste, qu'il n'y avait pas, dans les listes positives, il n'y avait pas tous les pays de l'Union européenne. Donc on peut aussi, par des biais un peu détournés, si on ne veut pas non plus heurter, mais je pense qu'il faut aussi quand même aller au rapport de force pour faire bouger ces États-là et les faire signer toutes ces conventions dont on parle depuis tout à l'heure.
Voilà, Grégoire Niaudet, donc, du Secours catholique Caritas France, en compagnie également de Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative économique et co-auteur des paradis fiscaux, et de Vincent Piollet, docteur à l'Institut français de géopolitique. À 18h49, on poursuit ce débat sur France Culture, sur l'évasion, la fraude fiscale, et de savoir aussi ce que peut l'échelon national pour lutter contre la fraude fiscale. Vous avez cité le cas de la Suisse à l'instant, Christian Chavagneux. Le volet américain de l'affaire UBS a aussi fait couler beaucoup d'encre, hein, cette année encore. UBS, première banque mondiale de gestion privée, contrainte de livrer aux autorités le nom de ses clients américains. Voilà qui n'a pas arrangé les affaires de la banque Helvète. Dans le rapport de force qu'ils ont imposé à la Suisse, les États-Unis sont souvent donnés, montrés en exemple. Est-ce la preuve qu'avec un peu d'autorité et beaucoup de volonté politique, les États peuvent faire tomber le secret bancaire ? Ou est-ce que vous apportez à cela une grande réserve, comme l'ont fait Patrick Banquet et Antoine Payon dans leur série documentaire UBS, La Grande Évasion Fiscale, en disant, certes, les États-Unis ont fait pression, ils ont obtenu des choses, mais ça ne les empêche pas, sur leur propre territoire, d'avoir leur paradis fiscal, le Delaware.
Le monde
ils jouent pour leurs intérêts.
Le monde n'est pas parfait, c'est sûr, mais quand les États-Unis jouent de l'hégémonie positive, on ne va pas s'en plaindre. On a souvent à subir les effets de l'hégémonie négative des États-Unis. Là, pour le coup, ils forcent un grand nombre de paradis fiscaux, ils forcent un grand nombre de fraudeurs fiscaux à révéler leur montage. Aujourd'hui, je pense que le fisc américain a la meilleure carte du monde possible des circuits internationaux de la fraude fiscale. Si nous, on peut obtenir ça de l'autre côté en même temps, comment on peut-être essayer de bâtir à partir des fameux 8500 dossiers que vous dénonciez, enfin que vous décriviez tout à l'heure, des fraudeurs français qui reviennent en France. On leur demande aussi d'expliquer les montages fiscaux. C'est ce qui a permis aux États-Unis d'aller très très loin, non seulement dans la remise en cause des pays, mais des acteurs privés. Puisque les pays sont là pour enregistrer de manière juridique et avec leur souveraineté des transactions, mais ce sont des acteurs privés, des fiscalistes, des cabinets d'audit, des avocats qui permettent toute cette fraude. Donc si on peut obtenir cette information en France, comme on l'a obtenue aux États-Unis, par de la dénonciation volontaire. Rappelons qu'aux États-Unis, en même temps qu'il y avait des procès, en même temps qu'il y avait cette fameuse loi FATCA qui met en place un échange automatique d'informations entre les acteurs privés et le fisc américain, eh bien il y avait une politique de dénonciation volontaire qui a amené 12 000 personnes, puis 15 000 personnes l'année d'après. Donc c'est l'attaque américaine a porté sur trois volets. Je rentre dans le chou des pays, je rentre dans le chou des acteurs privés et je force à la dénonciation volontaire extrêmement efficace.
Mais là encore, on peut imaginer que les banques suisses cherchent des outils pour protéger leurs secrets bancaires, la confidentialité des comptes et de l'identité de leurs clients. Est-ce qu'on pourra toujours échapper aux réglementations qui sont mises en place? Est-ce qu'il y aura toutes ces institutions bancaires auront toujours un coup d'avance?
Si on croit au G20, tous les pays du monde devront faire ça. Si on croit au G20, tous les pays du monde font. Bien sûr, il restera peut-être un Panama ou je sais pas, un petit pays, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que BNP Paribas, qui est très présente aux îles Caïmans avec l'ensemble des banques du monde entier, est en bonne compagnie. Si demain BNP Paribas doit être avec le chef de la prostitution russe et le chef de la drogue thaïlandais, pour son image de marque, ce sera très très difficile. Il restera toujours 5-10 petits territoires qui voudront aller encore plus loin dans l'opacité. Mais si le reste du monde est un peu plus propre, si le G20 va jusqu'au bout, c'est un grand si, hein, et bien à ce moment-là, ce sera très difficile.
Est-ce que là encore, les marchés ont prouvé leur inefficacité et leur manque de volonté à s'autoréguler, Vincent Piollet, ou est-ce qu'on sent de ce côté-là, du côté des acteurs du monde économique et financier, poindre un début de responsabilité dans tout ça?
Mais en fait, ça fait partie un petit peu des combats qui sont menés par certaines ONG, et notamment qui ont permis la possibilité d'avoir la publication par pays sur un certain nombre d'informations relatif aux banques. Moi, je pense que la société civile peut avoir un impact important, comme elle l'a eu, notamment, il y a eu le rapport social, le rapport environnemental. Maintenant, pourquoi pas un rapport éthique qui devra être publié par toutes les grandes entreprises en nommant pays par pays ce qu'elle fait, le nombre d'employés, les résultats, les impôts qu'elle paye. La société civile a vraiment son rôle à jouer. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a une dizaine d'années, vous parliez de paradis fiscaux. En fait, c'était comme parler du chinois. Personne n'en avait rien à faire. Maintenant, il y a une vraie conscience qui est prise. On a vu que des États comme la Grèce pouvaient mourir de ce mal, en fait, pratiquement, avec une évasion massive. On a carrément un continent. Il faut savoir, par exemple, que quand vous mettez 1 euro d'aide publique au développement en Afrique, il y en a 10 qui partent d'Afrique et qui s'évadent, qui ne sont pas des recettes fiscales pour l'Afrique. C'est-à-dire que ça a des conséquences directes et concrètes. Et maintenant, de plus en plus, les gens en ont conscience. Et j'espère que ça va aller dans cette voie.
Oui, deux points. C'est d'abord l'autorégulation pour le secteur privé. Ça fait 30 ans qu'on voit que ça n'existe pas. Il y a un ministre, il y a quelque temps, qui avait parlé d'autorégulation exigeante. C'est contradictoire complètement. C'est-à-dire, Je me souviens de mots de certains journalistes, c'est comme mettre un alcoolique dans une cave chez un caviste en lui disant ne touche à rien. Quoi. Ça me semble complètement ridicule. Il y aurait des mesures à prendre par rapport à ça. On en avait parlé lors d'un des colloques auxquels tous les trois on avait participé il y a quelques mois. C'est que les directeurs financiers soient responsables devant la loi sur les schémas d'optimisation fiscale, sur les affaires fiscales. Et certains directeurs financiers demandent ça dans les entreprises pour pouvoir refuser auprès de du conseil d'administration ou de leur chef de placer l'argent à tel ou tel endroit et se sentir vraiment borderline par rapport aux législations. Et donc, il y a des directeurs financiers qui demandent à pouvoir être sanctionnés pour utiliser ça comme un argument en interne de l'entreprise pour refuser et se dédouaner de toute faute par rapport à ça.
Parce que toute optimisation fiscale n'est pas de la fraude fiscale.
Mais on est dans une zone grise. Hein. Tout à l'heure, on parle d'évasion, de fraude, sans avoir fait forcément la distinction. Quoi. La fraude fiscale est une évasion illégale. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'optimisation qui est dans une zone grise, qui profite des failles des lois, entre les lois de certains pays, et qui permet de s'arranger. Et tant qu'on est dans l'opacité, tant qu'il n'y a pas la nécessité, l'obligation de déclarer les schémas, de déclarer les chiffres qu'on fait, on ne peut pas trop savoir. On est comme la personne qui cherche ses clés sous la lumière de lampadaire de la nuit et qui ne peut pas aller chercher au-delà du cercle de lumière. Donc, il faut absolument... C'est pour ça que la première mesure, qui n'est pas un objectif, mais qui est la première étape nécessaire et incontournable, c'est la transparence. Ensuite, il y avait un point sur... tout à l'heure, Vincent parlait de la mobilisation de la société civile. C'est vrai qu'on nous aurait dit il y a 10 ans qu'on obtiendrait la transparence pays par pays, qu'il y aurait toutes les avancées cette année. On n'y aurait pas forcément cru. Mais à force de sensibilisation... De l'opinion publique, de décideurs politiques au niveau local. On a travaillé aussi avec les collectivités locales, on a travaillé avec les citoyens pour qu'ils interpellent leurs banquiers sur le recours qu'ils avaient aux paradis fiscaux. On a travaillé avec les syndicats à l'intérieur des entreprises pour qu'elles interpellent sur les pratiques fiscales des entreprises. Ça a permis ensuite de sensibiliser tout ce personnel politique et de décideurs et d'arriver aux mesures prises cette année, par exemple.
Vous êtes, vous, encore, Christian Chavagneux, pour un durcissement des sanctions ?
La question, c'est, comme l'a dit Grégoire, il faut d'abord de la transparence, pour savoir où est l'état du problème. Et la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura cette transparence ? Pour l'instant, la question n'est pas résolue.
Parce qu'on aura la transparence dans les textes, mais faut-il encore pouvoir...
On aura les chiffres cette année pour les banques. Hein.
Dès 2014, on aura les chiffres pour les banques. Moi, j'ai réussi à obtenir, en violentant un petit peu une administration française qui m'a fait promettre de ne pas donner son nom, j'ai eu pour l'ensemble des filiales à l'étranger des banques françaises, le chiffre d'affaires pays par pays, le nombre de personnes employées pays par pays. Tout bêtement, j'ai ramené le chiffre d'affaires au nombre de personnes employées. Donc, pour l'ensemble des filiales à l'étranger, des banques françaises, quand vous faites ça, vous apercevez que le Maltais a une productivité absolument exceptionnelle, suivie de l'Irlandais et de l'habitant de Guernesey. Ça pose problème. Pourquoi est-ce que les grandes banques françaises ont autant de chiffre d'affaires dans ces petits pays ridicules ? Qu'est-ce qu'on va faire de cette information quand on l'aura l'année prochaine ? Il faudrait aller un peu plus loin dans l'affirmation politique des contraintes et surtout régler ce troisième problème qu'on n'a pas réglé. On est en train de régler le problème des riches qui vont dans les paradis fiscaux. Deuxième problème, des multinationales dans les paradis fiscaux. Troisième problème auquel on n'a pas du tout touché, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde, c'est que ces pays participent de l'instabilité financière internationale. Ils nourrissent les crises et ça, on n'a rien fait du tout.
Voilà pourquoi aucun État, à son échelle, seul ne peut réussir à résoudre cette question de la fraude fiscale et des paradis fiscaux.
Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au niveau national. Bien sûr qu'il faut une harmonisation internationale, c'est mieux. Européenne, c'est bien aussi. Mais au niveau national, on peut agir. La loi sur la fraude fiscale montre qu'on peut aller un peu plus loin. Dans chacun des pays, on peut aller un peu plus loin. L'action nationale est possible.
Merci beaucoup à tous les trois. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver à la page du Grain à Moudre sur franceculture.fr. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mathilde Barbier et Fanny Richet. Et réalisée ce soir par Philippe Baudouin, assisté d'Alexandre Dang à la technique. Demain, le Grain se met sur son 31. Pourquoi est-ce si difficile de parler des bonnes nouvelles ? On en a évoqué quelques-unes ce soir, puisque ce combat contre la fraude fiscale ou cette bataille a l'air d'avancer. On va en débattre encore demain avec des journalistes et des éditorialistes de la presse française. Ce sera bien sûr sur France Culture et ce sera bien sûr encore à 18h20. D'ici là, très très bon début de soirée à tous.